Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour ce 12e épisode, je vous propose une rencontre avec une romancière que l'on pourrait définir aussi comme essayiste, canadienne, parisienne et berrichonne d'adoption. Mais qui, pour répondre à la question « Qui êtes-vous ?», répondrait elle-même « Je suis mon chemin », au sens du verbe « être », mais aussi du verbe « suivre ». Je vous propose donc de cheminer aujourd'hui avec Nancy Houston et son roman « Ligne de faille », dont l'identité est une pierre angulaire de l'histoire.
Ligne de faille, Nancy Houston, aux éditions Actes Sud. Vous êtes d'origine canadienne, anglophone, mais c'est en français que vous avez écrit ce livre. Disons tout de suite qu'il s'agit de l'histoire d'une famille, quatre générations, et vous, vous remontez le temps. Nous partons d'un personnage d'aujourd'hui qui vit aux États-Unis, et nous allons remonter jusqu'à ses arrière-grands-parents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une famille à la fois au Moyen-Orient, en Palestine, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis? Quel est l'enjeu?
L'enjeu est immense, ce n'est ni plus ni moins que l'identité. En fait, je suis complètement fascinée par la manière dont les gens croient qu'ils sont quelqu'un et croient qu'ils appartiennent à un pays, une nation, une tradition, une culture, etc. Donc j'ai toujours été fascinée par ce qui se passe quand on les déplace, quand on change quelques-uns de ces éléments, comment est-ce qu'ils s'adaptent à ça.
C'est donc Nancy Houston que nous venons d'entendre lors d'une interview réalisée par Olivier Barrault pour son émission « Un livre un jour » diffusée sur France 3 en septembre 2006, juste après la sortie en librairie de son roman « Ligne de faille ». Mais sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début de cette histoire. Sol, 2004. C'est l'éveil. Comme quand on appuie sur l'interrupteur et que la pièce se remplit de lumière. Dès que je sors du sommeil, je suis allumée, alerte, électrifiée. Tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans et je suis un génie. Première pensée du matin. Mon cerveau remplit le monde et le monde remplit mon cerveau. J'en contrôle et possède chaque parcelle. Dimanche des rameaux, très tôt, AGM chez nous en visite. Maman et papa encore endormis, un dimanche ensoleillé. Soleil, 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 roi soleil, sol. Soli, Solomon, je suis un flot de lumière, instantané, invisible et tout-puissant qui se répand sans effort dans les recoins les plus sombres de l'univers, capable à 6 ans de tout voir, tout illuminer, tout comprendre. En un éclair, je suis débarbouillé et habillé, mon lit est fait, mes chaussettes et mon slip d'hier sont dans le panier à linge sale, plus tard, dans la semaine, ils seront lavés, séchés, repassés et pliés par ma mère, puis rangés, prêts à resservir dans le premier tiroir de ma commode. Ça s'appelle un cycle. Tous les cycles doivent être contrôlés et supervisés, comme par exemple celui de la nourriture. La nourriture circule à travers notre corps et devient nous. Alors il faut faire très attention à ce qu'on laisse entrer en nous et ce qui doit rester au dehors. Je suis exceptionnelle. Je ne peux pas permettre à n'importe quoi de pénétrer dans mon corps. Mon caca en sortant doit avoir la bonne couleur et la bonne consistance. Ça fait partie de la circulation. En fait, je n'ai jamais faim. Et maman est très compréhensive à ce sujet. Elle me donne seulement les nourritures qui me plaisent et qui circulent facilement. Yaourt et fromage et pâtes, beurre d'arachide et pain et céréales. Elle n'insiste pas sur tout l'aspect légumes, viande, poisson, œufs de la nourriture. Elle dit que j'y viendrai quand j'en aurai envie. Elle me fait des sandwichs à la mayonnaise avec du pain de mie en enlevant la croûte, mais même là, j'en mange la moitié ou le quart et ça me suffit. Je grignote de minuscules parcelles de mie de pain en les mouillant avec la salive dans ma bouche. Ensuite, je les pousse avec ma langue entre les lèvres et les gencives où elles se dissolvent tout doucement parce qu'en fait, je n'ai pas envie de les avaler. L'important, c'est de garder l'esprit affûté. Sa situation sur l'étagère? Eh bien, sur mon étagère, Ligne de faille se trouve entre les livres de Claudie Hunsinger et de Joseph Joffaut. Est-ce que Nancy Houston aurait apprécié de côtoyer ces auteurs? Concernant Claudie Hunsinger, elle partage l'amour de la nature, les Vosges pour l'une et le Berry pour l'autre, mais aussi l'amour de la linguistique que Claudie Hunsinger a mis au centre d'exposition comme plasticienne, avec notamment sa série des pages d'herbe. Il y a aussi le thème de la Seconde Guerre mondiale, présent dans certains romans de Claudie Hunsinger. Et c'est encore avec la Seconde Guerre mondiale que l'on pourrait tisser un lien entre les écrits de Nancy Houston et le roman autobiographique de Joseph Joffaut, Un sac de billes. L'histoire de deux enfants juifs qui fuient la capitale partent sur les routes pour traverser la France occupée par les Allemands. Un livre au grand succès où l'amour et l'espoir triomphent des souffrances et de la peur éprouvée par ses deux frères. Mais si Nancy Houston avait librement choisi ses compagnes et compagnons d'étagère, elle aurait cité d'abord un livre de la bibliothèque de son père qui l'a marqué, « Jamais je ne t'ai promis un jardin de roses » de Hannah Green, où elle découvre une héroïne confrontée à des voix intérieures. Un récit paru en 1961 l'a également énormément frappée, c'est « Blake Like Me ». Dans la peau d'un noir, de John Howard Griffin, l'histoire d'un blanc qui se grime en afro-américain pour connaître la réalité de l'existence d'un homme noir dans le sud des États-Unis. Autre auteur qu'elle admire, Romain Gary, qu'elle considère presque comme un frère et pour lequel elle a écrit « Tombeau de Romain Gary », un essai biographique où elle lui rend hommage, le tombeau, en musique baroque, étant une composition en hommage à une personnalité. Pour Nancy Houston, la vie devant soi devrait être au programme de tous les collèges. Dans les jeunes autrices françaises, elle citerait Carole Zalberg et Maïlys de Kerangal. Elle aime lire des livres du monde entier, et quand elle voyage, ce sont des romans du pays qu'elle visite, pour mieux le comprendre de l'intérieur. Elle admire aussi John Berger, britannique qui a passé la moitié de sa vie en Haute-Savoie. Pour les États-Unis, c'est Toni Morrison, Alice Walker pour La couleur pourpre. En Inde, Arundhati Roy pour Le dieu des petits riens. En Suède, Göran Törnström pour L'oratorio de Noël. Ou encore des auteurs à l'identité à trait d'union, comme elle dit, Zadie Smith, Taïs Selassie. Et un des plus beaux romans de ces dernières années à ses yeux, c'est L'arbre-monde de Richard Powers. Nancy Houston est née en 1953 à Calgary, au Canada. Son enfance est mouvementée, avec de nombreux déménagements, et surtout, alors qu'elle n'a que 6 ans, le départ de sa mère en 1959. Sa mère qui la laisse avec son frère et sa sœur à son père. Le cadeau en mal, le plus important que la vie lui ait fait, comme elle le dit. De ses 3 parents, dit-elle, elle retient malgré tout que sa mère lui a donné le cadeau de l'indépendance. Son père, homme très généreux, lui a légué une attitude fondamentale à ses yeux. Ni les signes extérieurs de richesse, ni le rang social, ni la réussite n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est le cœur. Et de sa belle-mère d'origine allemande, elle retient le modèle d'une jeune femme qui traversera l'océan toute seule pour recommencer sa vie dans une autre langue avec un homme qui a déjà 3 enfants. Avec son frère, âgé de 2 ans de plus qu'elle, elle apprend à lire dès l'âge de 4 ans. La lecture a une importance extrême, c'est un refuge, une addiction, qui la fait lire sous son lit le soir avec une lampe et sur le chemin de l'école, à pied, même l'hiver. Au lycée, grâce à sa prof de français, elle découvre Sartre et Vian, mais c'est son prof d'anglais qui, le premier, lui a inculqué l'amour de la littérature. En 1973, elle débarque en France pour une junior year abroad, sorte d'Erasmus pour étudier les humanités. Elle se lancera dans des études de linguistique avec Roland Barthes comme directeur d'études pour un mémoire sur l'interdit verbal. Pour gagner sa vie, elle travaille comme modèle aux Beaux-Arts et devient ainsi le modèle de Louis Derbré, sculpteur mayennais. Ensuite, prof d'anglais au ministère des Finances, elle consacrera le reste de son temps à l'écriture en français. Elle contribue à la revue Sorcière et au journal Histoire d'elle et traduit Pierrette Fleutiot qui deviendra son amie. À 25 ans, elle rencontre le philosophe et sémiologue Zvetan Todorov avec qui elle vivra plus de 30 ans. À la trentaine, elle écrira des essais épistolaires, comme elle les appelle, autour de ses thèmes de prédilection, la guerre et la prostitution, l'exil et le rapport à la langue. Entre 15 et 30 ans, elle est confrontée à l'anorexie, l'obsession du contrôle du poids et du contrôle en général, selon elle. À 32 ans, une maladie neurologique l'amènera à se questionner sur son mode de vie, et l'impression d'avoir mis un couvercle sur les émotions liées à l'enfance. Avec la rencontre du poète Jacques Ray Charlier, elle se passionne pour l'histoire haïtienne et réalise « Île en exil », un reportage pour France Culture. Et l'idée d'écrire un roman sur sa terre natale prend racine à ce moment. 4 ans plus tard, « Plaine Song » et « Cantique des plaines » seront publiés. L'ensemble de son œuvre explore les liens complexes qui unissent les drames intimes et la grande histoire, avec au cœur l'identité, l'exil, la prostitution ou la spoliation de la nature. On parle d'écriture organique pour ses romans, car le corps y est en effet très présent et elle a une technique d'écriture très particulière. Elle écrit une première version dans une langue, puis la traduit dans une autre, avant de retoucher l'original et de le donner à lire. Elle a publié plus d'une 60aine d'ouvrages et reçu de nombreux prix, notamment pour « Instruments des ténèbres » en 1996, pour « L'empreinte de l'ange » en 1999 et pour « Ligne de faille » en 2006, avec les prix Femina et France Télévisions.
Assise au bord de mon lit, la première femme de ma vie me caressait de ses grands yeux bleu-gris. Enrobée de papier crépon, parée de bijoux de bois, elle fumait une Alain Delon et me regardait, moi. Sur la peau pâle d'une épaule, de lettres de cyrillique, et la blessure d'une bretelle rouge brique. Et dans la voix, un grain de poivre, ce tout petit pépin piquant et doux qui me plaisait. Par-dessus tout, un grain de poivre, ce tout petit pépin piquant et doux qui me berçait. Fakir dans le chaud et le froid, brasero sous les flocons, je respirais le joli son de sa voix, du grain de poivre, ce tout petit pépin piquant et doux qui me plaisait. Par-dessus tout, un grain de poivre, ce tout petit pépin piquant et doux qui me berçait. Se lève et les vapeurs, la première femme de ma vie reviendra-t-elle si je me rendors? Me reparlera-t-elle?
Ligne de faille, c'est l'histoire d'une quête d'identité, d'une enquête d'identité, pourrais-je dire, car ce roman se lit comme une intrigue policière, avant d'aboutir au nœud de cette traversée dans le temps, un lourd secret de famille au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Avec ce livre, on remonte l'arbre généalogique d'une famille. 4 chapitres pour donner la parole à 4 enfants de 6 ans. À partir du récit de Sol, qui se déroule en Californie en 2004, on suit la trace de son père, Randall, à New York en 1982, puis de sa grand-mère, Sadie, en 1962 à Toronto, pour terminer en Allemagne en 1944 avec son arrière-grand-mère, Hera. Ligne de faille est le roman dont Nancy Houston dit se sentir la plus fière. Si son écriture n'a pas été facile, car elle l'a renvoyée à ses propres sensations d'enfance, c'est en l'écrivant qu'elle a pointé du doigt le fait que les enfants sont façonnés non seulement par l'histoire de leur famille, mais aussi par leur appartenance religieuse, linguistique, nationale. Ligne de faille a été adaptée au théâtre en 2013 par Catherine Marnas, metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Bordeaux à l'époque. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, je l'ai découvert en librairie, pas lors de sa parution, mais en version poche, au détour de déambulation chez ma libraire préférée, et ce roman a été le premier pas posé dans l'œuvre de Nancy Houston. Il reste aussi mon préféré à ce jour. Ce livre, je l'ai également beaucoup offert après sa découverte, et je me souviens l'avoir apporté à mon médecin traitant, celui qui me suivait depuis l'adolescence, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite. Je n'ai en revanche jamais eu l'occasion de le revoir depuis pour savoir s'il l'avait aimé, mais j'aime à penser qu'il l'a apprécié. Découvrons à présent un deuxième extrait de Ligne de faille alors que nous sommes au deuxième chapitre du livre, en 1982, et que nous cheminons aux côtés de Randall, 6 ans, le père de Sol, qui évoque son vieil ours en peluche et les liens qu'il a avec sa grand-mère maternelle, Hera. Je fais mon lit et installe mon ours Marvin à sa place sur l'oreiller. Une fois, Man l'a carrément jeté. Je l'ai trouvé dans la corbeille sous ma table en rentrant de l'école maternelle et je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis mise à brailler. « Qui a jeté Marvin ?» J'ai dit en sanglotant, non seulement de rage, mais aussi avec le sentiment de perte que j'aurais eu si je ne l'avais pas trouvé à temps. Et ce jour-là, Man était penaude. Elle m'a pris dans ses bras et s'est excusée en disant que c'était parce qu'il était tellement vieux et râpé. J'aime Marvin justement parce que c'est un vieux nounours tout râpé. On n'a plus les cymbales qui étaient attachées à ses pattes de devant, ni la clé dans son dos où on pouvait le remonter pour le faire marcher. Il a l'air borgne, parce qu'une des deux billes brun or qui lui servent Dieu est toute voilée et abîmée. Mais ce que j'aime le plus en Marvin est probablement la vraie raison pour laquelle Man l'a jeté, à savoir qu'il appartenait à Mamie Hera quand elle était petite. Personnellement, j'ai un lien spécial avec Mamie Hera, parce qu'on a tous les deux la même tache de naissance ronde et marron. La sienne est au creux de son bras gauche et la mienne à la base du cou, ou plutôt à mi-chemin, entre le cou et l'épaule gauche. Une fois, quand je passais le week-end chez elle, dans un loft, sur le Bowery, on a comparé nos taches. Et elle m'a dit que la sienne l'aidait à chanter. Alors je lui ai dit que la mienne me tenait compagnie, qu'elle était comme une petite chauve-souris perchée sur mon épaule gauche qui me chuchote des conseils à l'oreille quand j'en ai besoin. Hera a tapé dans ses mains de joie en disant « C'est formidable, Randall. Promets-moi de ne jamais perdre contact avec cette chauve-souris. » Alors, je lui ai promis.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire. À perte de vue, je fais trois pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Pleine, mais le cœur n'a pas assez. crois pas. Et tu es là sur la mauvaise hauteur. Je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas.
Résonance. On a évoqué tout à l'heure dans Ligne de faille l'histoire de l'ours en peluche de Randall, hérité de sa grand-mère. Ce roman, Ligne de faille, résonne pour moi avec une autre quête d'identité, racontée par Sylvie Germain dans son roman Magnus, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2005. Magnus, c'est l'ours en peluche du jeune héros Franz Georg, enfant né avant la guerre en Allemagne et qui a tout oublié de ses 5 premières années de vie. En grandissant, il est confronté aux secrets liés à sa petite enfance, aux mensonges, au silence des adultes. Et face à une identité imposée, il choisira finalement de porter le nom de son ours, Magnus. C'est grâce aux rencontres avec les autres, amitié ou amour, qu'il affrontera les failles de son passé, mais accédera aussi à sa propre personnalité pour découvrir ce qui est essentiel pour lui. Je vous propose d'écouter un extrait du tout début de ce roman composé de fragments, comme les pièces d'un puzzle à assembler dans l'histoire de Magnus. Et c'est Antoine qui nous propose cette lecture.
Fragment 2. Il porte sur chaque chose, chaque personne, dont ses parents, un regard plein de candeur et d'étonnement, examinant tout avec minutie. Le regard d'un convalescent qui a frôlé la mort et qui réapprend à voir, à parler, à nommer les choses et les gens, à vivre. L'année de ses 5 ans, il est tombé gravement malade et la fièvre a consumé en lui tous les mots, toutes les connaissances fraîchement acquises. Il ne lui reste aucun souvenir. Sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance. Des ombres néanmoins la parcourent, parfois venues il ne sait d'où. Sa mère, Thea Dunkelthal, consacre tout son temps à rééduquer son enfant oublieux et mutique. Elle lui enseigne de nouveau sa langue et à mesure qu'elle restitue son passé perdu en le lui racontant épisode par épisode, ainsi qu'un feuilleton dont il est le personnage central, et elle, la bonne reine, veillant sur lui. Elle le remet au monde une seconde fois, par la seule magie de la parole. Dans ce feuilleton en forme de conte qui l'enchante, car, comme tout conte, il brasse le terrible et le merveilleux, chaque membre de la famille a une stature de héros. Lui en tant que victime d'une fièvre vorace qu'il a cependant réussi à vaincre, sa mère en tant que fée bienfaisante, son père en tant que grand médecin. À ce trio s'ajoutent 2 autres figures bien plus valeureuses et admirables encore, celles des jeunes frères de sa mère, tués à la guerre, et à l'égard desquels il lui incombe de témoigner fierté et gratitude à jamais. Car c'est pour lui qu'ils se sont sacrifiés en partant combattre dans une contrée lointaine où les hommes sont aussi cruels que le climat, pour qu'ils grandissent dans un pays de gloire et de puissance. Et l'enfant qui assimile les mots « ennemi » et « maladie » s'est imaginé que ses oncles guerriers sont morts en livrant bataille à sa maladie, morts de froid et d'épuisement, à force de refouler l'adversaire, fièvre, vers une terre glaciale afin d'en éteindre le feu. De ces deux héros, dont il porte les prénoms, il se laisse avec docilité transmuer en mausolée vivant. Aussi séduisante soit l'épopée familiale, pleine de noblesse et de tristesse, elle souffre néanmoins d'un défaut, petit en apparence, mais qui chagrine beaucoup l'enfant. La mère n'y accorde aucune place à Magnus, qu'elle traite d'ailleurs avec mépris, voire répugnance. Or, Magnus et lui, Franz Georg, sont inséparables. Alors, il introduit clandestinement son compagnon dans la légende, il invente pour lui des scènes qu'il lui murmure longuement à l'oreille, celles qui portent la trace d'une brûlure, pour la consoler, quand ils sont seuls tous les deux, des scènes où Magnus tient un rôle égal au sien.
Une citation de l'auteur, Nancy Houston. Si on est enfermé dans les certitudes de sa tribu, de son village ou de sa religion, on n'écrit pas de roman. Le roman naît de la rencontre de l'autre, qui apporte le doute, l'ironie et l'incertitude. L'arbre et ses origines. Prenons un petit peu de recul, si vous le voulez bien, car pour ne rien vous cacher, nous allons remonter le temps de plusieurs millions d'années. Les traces des premiers végétaux, nous les devons bien sûr aux fossiles de ces premières plantes terrestres, mais aussi aux découvertes de géologues et de paléobotanistes. Si le premier fossile de plantes terrestres date de moins 430 millions d'années, on estime à moins 370 millions d'années l'apparition des premiers arbres, les lycopodiopsides arborescents. On est donc à la fin de la période du Dévonien, juste avant le Carbonifère. Pour mémoire, au Carbonifère, la France se situait à l'équateur, sous un climat tropical humide. Alors à quoi ressemblait cet ancêtre de l'arbre ? La forme la plus représentative était l'épidodendron, qui présentait une écorce en peau de serpent, d'apparence, cela ressemble à des sortes d'écussons. Doté de profondes racines, il pouvait atteindre 50 mètres de haut déjà et portait de petites feuilles directement sur ses branches. 70 millions d'années plus tard arriveront les arbres à graines ou spermatophytes, suivis du développement majeur des conifères. Et c'est seulement, si je puis dire, il y a moins 100 millions d'années qu'apparaissent les principaux groupes de plantes à fleurs. Alors, s'il est de bon ton de respecter les anciens, on peut humblement, en tant que genre humain, se faire tout petit devant ces géants d'hier. À bon entendeur, salut. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.